107.5 FM et internet www.rdwa.fr. Vous êtes bien sur RDWA, c'est l'interview du jour et je suis en compagnie de Harold David. Bonjour.
Bonjour.
Harold David, les gens le savent peut-être mais on va le rappeler, tu es le directeur de l'association Festival Est-Ouest, du théâtre de Die et puis par un heureux hasard, tu as été et vous avez été Festival Est-Ouest appelé pour organiser les Espiègleries, et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Les Espiègleries, festival d'humour musical au Pays de la Clairette.
Et oui, qui aura lieu tout bientôt, les 11, 12 et 13 mai prochains.
Donc on se fait une petite piqûre de rappel. Alors, première question, où en est l'organisation par exemple?
Dernière ligne droite, là on est vraiment dans les derniers préparatifs avant d'attaquer le montage en fait, de tout le village de Vigneron et toutes les installations dans la ville à partir de lundi. Donc là, de lundi à vendredi 19h, on a 5 jours pour faire sortir de terre ce fameux village qui va accueillir la plupart des manifestations, les spectacles, le cabaret, la radio, puisque RDWA sera présent pendant les deux jours du week-end du 12 et 13 mai. Donc voilà, gros challenge à relever, en espérant que voilà, il faut qu'à 19h bah, tout soit prêt et que le rideau puisse se lever sur cette première édition des Espiègleries.
Alors, tu as dit l'organisation, grosso modo, l'organisation de fond est terminée, c'est-à-dire que là, les contacts sont pris, il n'y a plus de tout ce qui est nourriture, je ne sais pas, même tout le matériel est prévu, il n'y a vraiment plus qu'à construire là, et donc il faut encore des bénévoles d'ailleurs. Francine était venue faire un appel.
Voilà, oui, bah, ça y est, l'appel a porté ses fruits, puisqu'on a eu beaucoup de gens qui se sont proposés pour venir nous aider, donc ça fait bien plaisir, parce que du coup, bah, on voit que cette manifestation qui n'existe pas encore, finalement, au travers du bénévolat, bien, se montre que les gens ont envie de se l'approprier, donc ça c'est plutôt extrêmement positif et encourageant pour cette première édition. Et donc effectivement, oui, sur le reste, tout est calé, heureusement d'ailleurs, sinon je ferais des nuits blanches. Elles sont courtes actuellement, mais elles ne sont pas encore blanches.
J'avais une question sur ces bénévoles. Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont bénévoles, j'allais dire purs, c'est-à-dire a priori pas directement intéressés par la manifestation, ou est-ce que les vignerons, les enfants de vignerons, les femmes de vignerons, je ne sais pas, est-ce que l'entourage aussi de la viticulture s'implique?
Oui, en fait, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, les vignerons sont sentis concernés en premier chef, ce qui est un peu logique, puisque cette manifestation est d'abord la leur. Et donc, non seulement les vignerons actifs, et puis effectivement leur entourage. Alors, on a effectivement des épouses de vignerons, des compagnes de vignerons, et des compagnons aussi de vignerons, puisque ce n'est pas une profession quand même exclusivement masculines, qui sont venus se proposer pour nous filer un coup de main. Et puis, il y a aussi tous les bénévoles qui nous accompagnent régulièrement sur les activités de l'association Festival Est-Ouest Théâtre de Die. Et puis d'autres nouveaux, voilà, qui ont été séduits par le projet, qui ont envie de donner de leur temps et de leur énergie pour que tout ça se passe au mieux.
Et autre petite question sur les personnes qui s'impliquent un petit peu. Donc c'est le syndicat de la Clairette qui est le commanditaire.
Oui, oui.
Syndicat de la Clairette qui rassemble donc à la fois des producteurs indépendants, mais aussi des grosses
coopératives
et caves et entreprises. Alors est-ce que la coopérative Jaillance, la cave Carotte par exemple, s'implique aussi
Oui, tout à fait. Enfin, le principe du syndicat, c'est que indépendamment du statut de chacune des caves ou des coopératives, ils sont là pour représenter l'appellation Clairette de Die. Donc ils n'ont pas à faire de distinction dans l'absolu entre les différentes caves et leurs tailles respectives. Donc bien sûr, oui, tout à fait, les Carottes, Jaillances sont tout à fait impliqués dedans, au même titre que des producteurs individuels ou des caves familiales.
Et ce que je voulais dire, c'est que cette implication est de l'ordre de l'organisation que eux vont avoir à tenir pour justement animer un petit peu ce village avec leur stand, ou alors est-ce qu'ils s'impliquent aussi vraiment dans l'organisation générale?
Mais disons que le conseil d'administration du syndicat s'implique vraiment, puisqu'on avait pour organiser tout ça mis en place un comité de pilotage mixte où il y avait à la fois des gens de notre équipe et puis des représentants du syndicat plus un certain nombre d'autres acteurs du territoire, qui soient touristiques, économiques, etc. Donc, dans l'organisation, effectivement, ils ont été tout à fait partie prenante, en tout cas sur les décisions. Après, nous, notre travail, c'était d'organiser. Donc, c'est évident qu'on a travaillé de concert avec eux, mais c'est quand même à nous que revenait la charge de l'organisation, ce qui est logique, puisque on est prestataire pour le compte du syndicat. Donc, ils n'avaient pas à être directement sur le terrain, mais on a vraiment travaillé la main dans la main pour que cette manifestation soit la plus réussie possible.
Alors, tu nous as parlé tout à l'heure du village du festival. Moi, puisque nous sommes invités à y participer aussi avec Erdiwa, je sais que ça se passe sur le Méros. On l'a déjà un peu cité. Tu as parlé aussi de la ville. Comment ça va s'organiser, ça, alors ? En fait, à quoi va-t-on s'attendre ?
Il y a des temps différenciés sur chacun des sites, voire en simultané, puisque dans la ville, en fait, il y a les animations suivantes. Il y a la rhino-fanfaringite, je vais y arriver, qui va déambuler le samedi 12 mai au matin pendant le marché dans toute la ville et puis rallier le village en fin de matinée. Le samedi après-midi à 17h45, on a le cirque Hirsute qui va présenter le blues de la Mancha sur la place Jules Plan. Donc là, le public va être invité à venir sur la place Jules Plan pour assister à cette représentation, sachant qu'elle est gratuite. Donc, vraiment tout le monde est le bienvenu pour ce rendez-vous circassien. Et à côté de ça, il y a d'autres temps de déambulation, comme la fanfare L'Écho du Diwa, qui va aussi participer à l'ouverture du festival vendredi soir. La confrérie de la Clairette, il y a également la communauté libre de Saint-Marcel qui va proposer différentes animations autour de la fontaine Saint-Marcel le samedi matin, avec notamment le baptême de la cuvée Espièglerie, puisque le syndicat avait souhaité qu'il y ait une cuvée spéciale les Espiègleries qui voient le jour, ce qui est le cas. J'ai déjà vu les bouteilles, donc je sais qu'elle existe, ce n'est pas un mythe.
Alors là, j'ai une vraie question. Qui fait cette clairette ?
Alors, parce que
le syndicat n'a pas de...
Non, tout à fait. En fait, ça s'est passé de la manière suivante, c'est que la confrérie de la clairette a été invitée à faire une dégustation à l'aveugle de différentes clairettes produites par différents producteurs.
Confrérie dont tu fais partie. Hein.
Et donc maintenant, je fais partie, puisque j'ai eu l'honneur d'être intronisé chevalier de l'ordre des compagnons de la clairette le 14 avril dernier. Donc là, je suis maintenant condamné jusqu'à la fin de mes jours à promouvoir la clairette de par le monde.
Belle condamnation.
Oui, ça va, il y a pire comme contrainte. Et donc, la confrérie a fait une dégustation à l'aveugle et a choisi une clairette parmi toutes celles qu'elle a dégustées. C'est celle-ci qui a été désignée pour être la cuvée Espièglerie. Alors, je ne sais pas si je suis autorisé ou pas à dire quelle est effectivement la clairette élue.
Non, peut-être pas.
On en reparlera peut-être le week-end du 11 ou 13 mai. Je laisse
On verra si ça pose des questions.
Honnêtement, je ne sais pas. Donc, je préfère ne rien dire.
Vous, c'était vraiment à l'aveugle. Vous n'aviez pas d'étiquette, pas d'influence possible.
Non, aucune. Vraiment, c'est la confrérie qui a choisi la clairette qui lui semblait la meilleure, en l'occurrence, parmi celles qu'elle a goûtées, et qui a décidé de lui attribuer ce label de la cuvée Espièglerie 2012.
Très bien. Alors, on repart un petit peu sur l'organisation du village, la partie, on va dire, vraiment immergée du festival, là où les gens vont pouvoir se promener. Mm-hmm. Alors, on a entendu quelques animations en ville. Il n'y a, a priori, aucun stand, les stands de dégustation tels que les gens s'en rappellent, avec l'ensemble des producteurs. Tout ça se passe au Méros.
Voilà, tout à fait. Dans le village du Vigneron, où il y a plusieurs espaces à l'intérieur du village. Il y a cet espace dégustation donc, qui va réunir effectivement une vingtaine de caves du pays de la Clairette, plus une dizaine de producteurs de produits du terroir qui sont associés en gros avec l'image de la clairette. Il y aura également donc l'espace cabaret restauration qui sera aussi sur le site, l'espace librairie, l'espace radio, également l'espace enfant où il y a énormément d'animations qui sont proposées tout le samedi et tout le dimanche 12 et 13 mai pour les enfants, des tout petits jusqu'aux plus grands. Et puis bien évidemment le chapiteau spectacle sous lequel aura lieu chaque soir nos trois concerts de soirée avec San Severino, Fabienne Guyon pour le samedi et le Quatuor pour le dimanche.
San Severino le vendredi
11, voilà, oui.
Et d'ailleurs, à propos de San Severino, c'est quasi archi plein là.
C'est bien plein. Alors, il y a des bruits qui courent comme quoi ce serait complet. Non, ce n'est pas encore complet au jour d'aujourd'hui. Il reste encore des places, mais effectivement, plus beaucoup. On est très, 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 très content de voir que cette programmation a l'air de rencontrer l'intérêt du public, puisque effectivement, les trois concerts sont d'ores et déjà bien, bien remplis, mais il reste encore des places. Donc, si vous voulez venir écouter San Severino, Fabien Guyon et le Quatuor, n'hésitez pas. Il faut venir réserver, par contre, parce que c'est probable que d'ici la fin de la semaine prochaine, il ne reste vraiment plus beaucoup de place, voire plus de place. Voilà. Mais il y en a encore au jour d'aujourd'hui.
Oui, j'ai cité San Severino, mais les deux autres formations sont aussi bien pleines. C'est pas dû uniquement à la notoriété de l'artiste.
Non. Bah le Quatuor a une notoriété différente de San Severino. Ça ne touche pas forcément le même public, mais il est quand même, c'est une formation qui est quand même bien connue du grand public. Donc là aussi, il y a un vif intérêt pour ce spectacle. Et puis Fabien Guyon, qui est moins connu effectivement du grand public, le répertoire de Boris Vian a l'air d'intéresser aussi les gens. Et puis comme c'est le samedi soir, je pense qu'il y a aussi l'envie des gens de profiter du week-end et de nous faire confiance en tout cas sur cet artiste qu'ils connaissent moins bien et dont je peux leur garantir qu'ils ne seront pas déçus, parce que c'est vraiment une artiste d'exception.
Le village est ouvert tout le temps. Est-ce qu'il y a des animations du matin au soir? Justement, comment ça se passe
Oui, il y a vraiment des animations du matin au soir. Parce que les samedis matins, par exemple, sur le village, il y a des ateliers d'écriture, des ateliers de chansons qui sont proposés au public. Il y a également des temps de découverte de cocktails à base de clairette avec les élèves de l'école de Tain-l'Hermitage en Semellerie, qui vont faire des dégustations de clairette. Il y a également l'après-midi, justement, une partie débat, rencontre qui se fera en public avec Erdiwa, où donc il y a des tables rondes qui vont être organisées, qui vont être diffusées sur la radio, mais qui sont aussi ouvertes au public sur le temps du samedi et du dimanche. Et puis, effectivement, au niveau des jeux pour les enfants, ça démarre le matin jusqu'à 18h le soir. Donc, il y a vraiment de quoi s'occuper toute la journée. Sans oublier les temps des repas le samedi, dimanche, midi et soir, où en fait, ce sont des repas animés. Donc, il y a des artistes qui vont se produire pendant les repas. Donc, ce sera vraiment une ambiance cabaret midi, soir et après les spectacles. On a encore d'autres groupes ou artistes qui seront programmés pour prolonger la fête jusqu'au bout de la nuit.
Est-ce que tu arriverais à citer tout le monde là tous les gens invités au cabaret, les styles?
C'est un peu mon travail de savoir qui c'est que je programme.
Il y a une longue liste, c'est pour ça que je te disais
Il y a une longue liste, mais je peux les citer.
Tu aurais pu même te dire, mince, peut-être si j'en oublie, ça va fâcher des gens.
J'ai quand même bien en tête.
Alors, je te laisse nous énumérer un peu.
Donc, le samedi soir, après le concert de San Severino, on va accueillir le Santa Maquero Orchestra, qui est un groupe qui va normalement mettre le feu au cabaret, puisque ça va être vraiment là pour le coup une soirée dansée. C'est un groupe qui mélange à la fois fanfare, électro, sur des rythmes d'Europe de l'Est principalement, donc ça devrait être bien festif. Le samedi midi, on va avoir Jean-Pierre Tutin, qui est un grand monsieur de la chanson française, qui va balayer le répertoire des chansons humoristiques, comiques, etc. pendant le repas. Pour le repas du samedi soir, il y aura donc Pascal Marie, qui est un jeune auteur, compositeur, interprète, qui va aussi faire la première partie de San Severino le vendredi soir, qui lui a un répertoire lui aussi plein d'humour et de légèreté. Et après le spectacle de Fayenne Guillon, il y aura donc une artiste qui s'appelle Bonbon, qui sera accompagnée par Léon, le roi de l'accordéon. Donc là, une soirée plus traditionnelle, mais Bonbon, c'est vraiment une artiste qui est une sorte de Jacqueline Maillan de la chanson humoristique et qui revisite tout un répertoire qui peut sembler ringard, c'est-à-dire des années 20 à 40, mais d'une manière complètement moderne. Et vraiment, les gens ne seront pas déçus parce que c'est une personnalité artistique extraordinaire et qui est à mourir de rire, vraiment.
Ceci dit, ce répertoire, il était assez cru, en tout cas en chanson française. On peut quand même se rappeler de quelques belles perles.
Oui, tout à fait. Justement, son spectacle s'appelle Bonbon chante des perles.
D'accord.
Des perles, il y en aura. Et pour le dimanche midi, ce sera une autre ambiance avec un groupe qui s'appelle As qu'on s'aime et qui fait plutôt de l'opérette. Donc là, on sera sur le répertoire avec des voix lyriques, mais sur un répertoire drôle avec du Offenbach, des choses très légères. À 19h, pour le repas du dimanche soir, ce sera Christophe Rouillon et son spectacle Les années sandwich, qui lui est du Diwa, qui va animer ce temps-là. Et on retrouvera Jean-Pierre Tutin pour clôturer le festival après le Quatuor.
Je n'ai
oublié personne, je crois.
Très bien, très bien. Tu nous as parlé de repas. Qui organise ces repas? Est-ce que c'est des repas traditionnels?
Ce sont des repas qui sont préparés par un traiteur qui s'appelle Paprika, qui est implanté à Mirabel et Blacon, donc sur le territoire du pays de la Clairette, parce que c'était vraiment une volonté de travailler avec quelqu'un qui soit du pays de la Clairette.
Ouais.
Oui, c'était vraiment, vraiment important. Et Stéphane Fleuriot, qui est le responsable de ce traiteur, fait de la cuisine qui est à la fois traditionnelle, mais qu'il essaye de réinventer. Donc, il nous a fait des propositions de menus qui sont pour les repas principaux à base, enfin pour les plats principaux, pardon, à base de clairette ou de crémant, mais avec des inclinaisons un peu originales. Et donc, l'idée étant de faire découvrir aussi au public la façon dont la clairette peut se marier et se cuisiner peut-être différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'espère que ce sera aussi une manière de découvrir la richesse des possibilités de la clairette et du crémant et de toutes les appellations du pays de la clairette au travers aussi de la gastronomie.
Tu as parlé de toutes les appellations. Est-ce qu'il y aura aussi, par exemple, du Châtillon Andivois? Est-ce qu'il y
Bien
aura
sûr.
aussi. Oui.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment, enfin, le syndicat, c'est en fait le syndicat de la Clairette
On
et des
oublie
vins du
souvent de le dire.
Diois, voilà. Et donc, effectivement, il y aura du Châtillon, il y aura du Coteau
Dit.
de Guy, voilà, tout à fait. Bref, hein, tout ce qui est
Ok.
produit sur notre territoire.
Est-ce qu'on peut parler un peu de prix maintenant? Le prix des repas, prix
Ouais.
des entrées.
Bien sûr. Donc, au niveau des spectacles, en fait, selon la nature des spectacles, il y a des prix qui sont différenciés. Alors, tout ce qui est cabaret et repas, c'est au niveau de l'animation, c'est entrée libre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cirque Hirsute, le samedi après-midi à 17h45 sur la place Jules Plan, ce sera aussi à entrée libre. Pour ce qui est des concerts du soir, donc sur San Severino et le Quatuor, on est sur des prix qui sont un petit peu élevés, on en a bien conscience, mais qui sont aussi en rapport avec le prix de vente des spectacles. C'est toujours pareil, dès qu'on a des
Des
têtes
stars.
d'affiche, enfin, en tout cas des gens qui ont une certaine notoriété, les prix de cession des spectacles
Sont
sont
élevés.
élevés. Et donc, on est sur des tarifs qui vont de 24 à 12 euros pour San Severino et le Quatuor, et sur Fab N Guyon de 18 à 9 euros. Voilà pour les spectacles du soir. Et sinon, au niveau des repas, il y a un prix unique avec entrée, plat, dessert et café pour 13 euros, qui est le prix d'une formule classique, je crois, ici à Die
Oui.
pour un repas avec l'animation en plus, donc voilà qu'on offre entre guillemets par rapport au repas. Et puis sinon, sur l'accès au village, l'entrée au village dans l'absolu est entièrement libre. Par contre, pour les dégustations, il y a la formule suivante, c'est-à-dire que les gens, enfin le
Formule
public,
habituelle même, je crois.
bah, pas tout à fait par rapport à ce qui se
D'accord.
faisait auparavant au niveau de la traditionnelle fête de la Clairette, dans le sens où il y a un verre de Clairette, enfin une coupe de Clairette qui va servir aux dégustations, plus 10 dégustations qui sont vendues au prix de 8 euros. Et si le public souhaite aller au-delà des 10 dégustations et donc acheter des recharges en quelque sorte, les 10 autres dégustations supplémentaires sont vendues au prix de 5 euros. Voilà. Et puis sinon, toutes les animations pour les enfants sont proposées gratuitement. Et l'accès à voilà, tous les autres sites sont gratuits.
Donc tu as bien fait de le noter, ça change un petit peu. On ne pourra pas s'enivrer non-stop, comme ça avait été souvent
Ben,
reproché
on pourra
cette fête.
s'enivrer non-stop, mais
Mais on va payer, quoi.
il
Enfin, je veux
faudra
dire,
payer
oui.
un petit peu,
Voilà. J'allais
effectivement.
dire gratuitement, comme c'était traditionnellement.
Ça, c'était une volonté, on va dire, du syndicat aussi d'éviter certains débordements, parce qu'on a
Oui.
aussi une responsabilité en tant qu'organisateur de veiller à ce que on n'encourage pas l'ivresse sur la voie publique. Hein. Les lois sont quand même très strictes sur le sujet. Et sans être, comment dirais-je, hystérique avec la législation sur le sujet, c'est vrai que notre responsabilité, elle est engagée s'il y a le moindre accident derrière. Donc on a aussi sur le prévu sur le site du village des vignerons, d'ailleurs, non pas des actions de prévention, mais en tout cas de l'information, des éthylotests qui seront mis à disposition du public, parce que c'est important que bah, la fête reste la fête jusqu'au bout et que on n'ait pas à gérer les conséquences d'un drame. Et on sait que ça peut arriver dès lors qu'on a les chiffres en tête des accidents qui sont liés à cause de l'alcool au volant. Donc voilà, il était important d'arriver à réguler ça de telle sorte que bah, ça soit pas un danger ni pour les personnes qui ne seraient pas suffisamment vigilantes par rapport à leur consommation d'alcool et également à nous protéger aussi en tant qu'organisateur.
Tu nous parles un peu de sécurité, justement. Est-ce qu'on peut détailler un peu la proximité de la route avec le parking du Méros et puis le public, le volume de public attendu? Comment vous avez
Alors, au niveau
envisagé
de la
ça?
sécurité vis-à-vis de la route, bah, tous les accès en fait sur la route, enfin qui est sur le un trou là sur le nom du boulevard qui passe
Le ballon.
le ballon, voilà. Donc ce sera en fait barriéré pour que justement il n'y ait pas de débordement. C'est vrai qu'au niveau de la fréquentation, on est un peu dans l'inconnu puisque c'est la première édition. On sait que jusqu'à présent, sur une journée traditionnelle de la fête de la Clairette, il y avait à peu près 2000 personnes jour, mais qui n'étaient pas présentes à un instant T ensemble. ensemble. C'était le passage tout au long de la journée. Là, c'est vrai qu'il y a une autre organisation, une autre communication. Le beau temps a l'air d'être avec nous et de s'annoncer comme tel jusqu'au 13 mai. Donc, on peut supposer que ça va donner envie de manière plus large au public de venir.
Et puis, la possibilité de rester vraiment, du coup.
Et là, la possibilité de rester vraiment. Voilà, donc,
plus être de passage.
Alors, c'est vrai que l'espace est grand et qu'on a quand même de la ressource. Mais ça, on va être obligé de le gérer un peu chaque jour en fonction du volume de personnes qu'on va pouvoir identifier présentes sur le site pour peut-être à un moment donné fermer l'accès au site si vraiment on voit qu'on est débordé, parce qu'encore une fois il ne s'agit pas de rendre le site impraticable et que ce soit plus agréable pour les gens qui seront là, mais c'est vrai que
pour se donner un ordre d'idée, vous avez prévu par exemple de pouvoir absorber combien de repas, par exemple, combien de public
au niveau des chapiteaux, on a là une jauge qui est limitée à 550 places. Donc, ça bloque déjà un certain niveau. Au niveau des repas, on est parti pareil sur chaque service, un maximum de 500 repas, sachant que entre les viticulteurs présents, l'organisation du festival, les bénévoles, etc., on est déjà en général plus de 100 déjà à se restaurer sur place. Donc on prévoit à peu près 400 repas supplémentaires pour le public par service. Et après, sur le site, on sait qu'il peut accueillir, d'après les chiffres qui nous ont été donnés par la ville et la police municipale, aux alentours de 2500 personnes en même temps. Donc c'est à nous d'évaluer si on est en deçà ou au-delà de ces 2500 pour à un moment donné peut-être effectivement être obligé de fermer l'accès au site le temps que ça se régule de manière plus souple.
C'est tout ce que je vous souhaite, devoir le fermer.
Après,
le site pour réguler.
C'est plus facile de gérer le succès que l'inverse, donc je pense qu'on devrait y arriver sans trop de difficultés. Mais c'est vrai que c'est une grosse inconnue. Le syndicat a fait de gros efforts en termes de communication, comme ils n'ont jamais fait, en tout cas, ça je le sais, auparavant sur les autres fêtes de la Clairette.
On a été arrosé de belles affiches.
C'est vrai que on ne peut pas mesurer au jour d'aujourd'hui l'impact que ça aura. Rendez-vous le 12-13 et on en tirera le bilan à l'issue.
Avant de terminer, on peut citer quelques espaces pour ceux qui n'ont absolument pas écouté ce que tu dis ou qui n'arrivent pas à retenir le programme.
Oui.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi une page Facebook. Alors, est-ce que tu peux nous citer un peu tous les endroits ?
Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 mai. Donc, si on achète le Progrès de Lyon, par exemple, il y a tout le programme qui est présenté. Parce que le syndicat a fait faire un supplément exceptionnel au Progrès de Lyon qui va être distribué sur tout le département du Rhône et de l'Ain. Alors, certes, c'est pas ici, mais pour les gens qui ont accès au Progrès de Lyon. Il y a ce supplément qui donne tout le programme.
Ça me permet de glisser que c'est un des grands projets du syndicat de la Clairette, de faire en sorte que en Rhône-Alpes, on boive le crément de Die et plus le crément d'ailleurs.
Tout à fait.
Puisque nous avons un crément des Alpes.
En plus excellent, donc ce serait dommage de s'en priver. Et donc effectivement, cette opération de communication là, sur le Rhône et l'Ain, elle a effectivement pour vocation de mieux faire connaître les produits de l'appellation. Et puis sinon, donc, bien sûr, il y a un site internet donc, qui est www.les-espièglerie.com. Où là il y a vraiment tout le programme détaillé. Et puis un programme papier qui est disponible un peu partout sur Die, dans tous les offices de tourisme de la Drôme, un certain nombre de commerces, de lieux partenaires, des mairies, etc. Et puis il est bien sûr disponible aussi au bureau du Festival Est-Ouest. Et on peut nous appeler pour encore envoyer le programme, il n'est pas trop tard. Et également pour réserver, c'est le même numéro, donc j'en profite pour le donner, qui est donc le 04 75 22 12 52.
Et je remettrai tout ça sur la page internet dédiée à cette interview. Aurais-tu encore des choses à nous dire ?
venaient nombreux et allumer des cierges pour qu'il fasse beau jusqu'au 13 mai au soir. Voilà, c'est un peu l'angoisse qu'on a, parce que c'est vrai que là, quand la semaine dernière, je suis allé en repérage sur le site où il faisait un temps de Toussaint, où il pleuvait, il faisait froid, et je nous imaginais en montage ou même pendant le temps de la manifestation, et c'est sûr que ça va être moins la fête s'il fait ce temps-là le week-end prochain.
Ça mais sera bon, un peu punk.
Oui, ça sera peut-être un peu punk, effectivement. mais voilà, on espère que cette manifestation va avoir du succès, parce que son renouvellement, enfin le fait que ça ne s'arrête pas à une première édition, c'est évidemment un peu lié à la façon dont le public va répondre. Alors pour l'instant, tous les signes sont encourageants dans ce sens, et que on a plutôt, même en termes d'image sur la manifestation, plutôt des retours positifs, où les gens sont un peu presque surpris, enfin voilà, qu'il se passe autant de choses, que ça ait pris cette forme-là, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt très 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 positif.
Mais tu crois que si la pluie était de la partie et que du coup la fête serait un peu gâchée, ça remettrait en cause une réédition?
Non, pas forcément une réédition, mais c'est sûr que ça va être moins agréable pour tout le monde, pour nous, pour les artistes, pour le public. Et c'est évident que ça aura un impact sur le public, parce que c'est vrai que le pari de cette manifestation, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dehors, ne serait-ce que pour la dégustation, même si les stands sont effectivement couverts, eux, abrités. Voilà, s'ils tombent des cordes autour, ouais, c'est sûr que ça ne va pas motiver les gens beaucoup à venir sur le site.
Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait avoir un impact financier aussi assez lourd, mais remettrait-il en cause une deuxième édition? Enfin, j'imagine que vous avez quand même pris une assurance au cas où.
Oui, on a pris une assurance sur...
Ça serait juste gâcher une année.
Ouais, ça serait gâcher une année, mais c'est vrai que du coup, bon, j'imagine quand même, je ne vais pas parler à la place du syndicat, mais que voilà, psychologiquement ce et symboliquement, ce serait moins
évident. Et à ta place, à toi
À place à moi, ça m'est déjà arrivé d'être confronté, c'est pas la première fois que j'organise des festivals, donc d'être confronté au mauvais temps, c'est un des paramètres sur lequel on n'a pas de prise, dès lors qu'on est en plus sur des structures qui utilisent beaucoup les espaces extérieurs. Non, ça remet pas en cause l'énergie, on sait bien que c'est des choses qui arrivent, il y a plein d'incidents sur lesquels on n'a pas la maîtrise, même si on essaie de tout préparer à l'avance. Donc il faut accepter ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie du spectacle vivant de manière générale, où on est soumis à des paramètres qui nous échappent.
Et mais cela n'arrivera pas.
Voilà, je touche du bois pour qu'effectivement ça n'arrive pas, mais ça fait partie, enfin je suis assez philosophe et fataliste avec ça, ça doit arriver, et puis c'est pas le bout du monde, il y a quand même des choses 10 000 fois plus graves sur cette terre, et dont même certaines échéances tout bientôt, par exemple, qui sont des moments beaucoup plus importants que la pluie ou pas la pluie sur un festival.
Tu as pu en placer une petite, c'est très bien.
Bah oui, c'est partie aussi de notre rôle de rappeler qu'il y a des rendez-vous incontournables dans une vie de citoyen, celle d'un festival comme celui des Espiègleries. Et bien évidemment, lui aussi incontournable, mais il y en a d'autres que je place quand même au-dessus.
Et d'ailleurs, qui vont d'ailleurs peut-être jouer grandement aussi sur l'avenir de la culture et de nos positionnements un peu de... Nos travails, du travail associatif.
C'est sûr que vu les programmes des deux derniers candidats, puisque c'est deux dont on parle à la présidentielle pour dimanche prochain, c'est sûr que sur le plan culturel, ils n'ont pas tout à fait la même approche. Et donc effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire que les choses ne se passeront pas forcément de la même chose pour ce qui concerne nos métiers, effectivement, et la culture en général, dans la réussite de l'un ou l'autre des candidats. Voilà, mais je renvoie les auditeurs au programme respectif de ces candidats et ils pourront juger sur pièce.
Et le but de cette rencontre était d'envoyer les auditeurs surtout vers le programme des Espiègleries 11, 12 et 13 mai prochain, très bientôt. Merci Harold pour cette nouvelle présentation.
À bientôt.
À bientôt.